Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39%, habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent, par ailleurs, plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants: la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages, l'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, les difficultés de l'agriculture.
C'est un fait, la physionomie de notre territoire national est aujourd'hui encore très largement dessinée par son exploitation essentiellement agricole. Le territoire agricole occupe en effet 32 millions d'hectares sur les 55 que compte le territoire métropolitain. Si le nombre d'agricultrices et d'agriculteurs se réduit progressivement du fait du vieillissement de sa population et de l'augmentation des unités productives, l'écosystème d'emplois occupés ou induits par l'activité agricole reste extrêmement important. Au-delà de ces données économiques, une analyse plus sociologique montre combien les agriculteurs demeurent aussi très investis dans la vie de territoires ruraux. Dépositaires d'un héritage symbolique, ils s'investissent plus que la moyenne dans les activités locales de socialisation, comme les associations ou les fonctions électives. Pour s'intéresser à ce vaste sujet, quoi de mieux que de partir en radio trip chez nos voisins aveyronnais. Situé au centre d'un triangle formé par les villes de Toulouse, Clermont-Ferrand et Montpellier, c'est l'un des plus grands départements de France métropolitaine de par sa superficie. L'agriculture couvre la quasi-totalité de l'espace rural du département. Pour démarrer cette aventure, nous sommes allés direction Rodez, la préfecture de l'Aveyron, pour rencontrer Jacques Molière, président de la Chambre d'agriculture du département, qui a commencé par nous présenter le rôle, très important, des chambres d'agriculture.
Je m'appelle Jacques Molière, je suis président de la Chambre d'agriculture. D'abord, je suis agriculteur dans l'ouest Aveyron, sur une ferme en Gaec à plusieurs élevages d'une centaine d'hectares, avec des canards pré-agavés et des vaches allaitantes. Voilà. Je suis donc président de la Chambre d'agriculture depuis une douzaine d'années. Je suis président du Corel et du GIE qui s'occupe de l'élevage au niveau de l'Occitanie. Et je suis en plus maire de Montbazin et président de la communauté des communes. Les chambres d'agriculture sont organisées au niveau départemental pour le moment, avec une instance régionale et une instance nationale. L'instance nationale s'appelle l'APCA, les chambres d'agriculture nationales, qui pose le cadre et qui discute avec les ministères concernés, qui pose le cadre de la mission de l'agriculture. La région, c'est plus un endroit où il y a de la coordination et puis il y a de la mutualisation des services, avec bien sûr les instances régionales qui prennent de plus en plus d'importance et qui font qu'on doit être de plus en plus présent à la région, puisque les délégations, que ce soit de l'État, notamment sur la région Occitanie, je rappelle que l'installation notamment est déléguée aux régions, la situation. Donc un certain nombre de choses, l'économie est déléguée à la région, donc les régions sont en train de prendre de plus en plus d'importance, donc il faut être organisé au niveau régional. Mais la chambre statutairement est un établissement public local qui est implanté au niveau de chaque département. Ces deux missions en Aveyron sont missions et multiples. C'est une mission consulaire, c'est-à-dire de représentation de l'agriculture et des agriculteurs auprès des instances nationales, départementales, que ce soit de l'État ou des collectivités, bien sûr. Cette mission consulaire aussi occupe une place importante pour les avis qu'il faut donner sur l'urbanisme, notamment en milieu rural, sur l'environnement, sur les implantations de photovoltaïques au sol, sur les implantations d'éolien, sur tout ce qui concerne l'urbanisme et sur l'environnement et sur aussi un certain nombre de débats qui sont du rôle d'interconsulaire. Et le deuxième pôle, la deuxième mission des chambres d'agriculture, quand elles le souhaitent, bien entendu, c'est un pôle d'accompagnement des agriculteurs et des organismes agricoles pour, dans le développement et la vie de tous les jours, c'est-à-dire que ce soit en Aveyron, par exemple, ça se situe au niveau de l'élevage, le conseil en élevage, le conseil technique, et le conseil en agronomie, le conseil technique en agronomie, etc. Et de plus en plus sur des missions qui obligent l'agriculteur à être agréé sur tel ou tel HVE, par exemple, pour toute valeur environnementale, ou autres qui, la Chambre d'agriculture, sont certifiées pour remplir ces missions-là.
Jacques Molière nous a ensuite dressé le portrait du paysage agricole aveyronnais.
L'agriculture aveyronnaise, d'abord, elle est bâtie sur un équilibre. Depuis bien longtemps, mes prédécesseurs avaient commencé, elle est bâtie sur un équilibre entre les hommes, alors l'économie et le territoire. Alors, je m'explique. Les hommes tout d'abord, puisque c'est une agriculture qui est à taille humaine, des exploitations à taille humaine, c'est un département qui a aujourd'hui 7800 exploitations agricoles, avec ça 10 000 agriculteurs, puisque le jeu des sociétés fait qu'il y a plus d'agriculteurs que de sociétés au niveau d'exploitation agricole. C'est un des départements de France qui a le plus grand nombre d'exploitations agricoles et qui installe le plus grand nombre de jeunes agriculteurs chaque année. On est aujourd'hui sur le renouvellement des générations de une arrivée pour 2,2 départs. Alors il y a quelques années, on avait une arrivée, un jeune qui s'installait pour 4 départs. Donc on remplit pleinement cette fonction-là. Agriculture à taille humaine, les hommes. L'économie, c'est la première économie du département, qui pèse un tiers. L'agriculture et l'agroalimentaire dans ce département représentent un tiers du produit brut départemental. À peu près, globalement, un tiers des actifs, si on compte les emplois induits. Un tiers, c'est-à-dire l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Si je le compare par rapport à la région, qui est 14 milliards de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'un département comme le nôtre fait aujourd'hui 22% du poids économique en agriculture et en agroalimentaire de la région Occitanie. Un département sur 13 fait un quart de la production d'Occitanie en agriculture et en agroalimentaire. Ce département est tourné essentiellement vers l'élevage à 90%. On y retrouve les trois laits, les deux vaches, les deux brebis et bien entendu avec le roi des fromages qui est le Roquefort notamment. Et les deux chèvres qui est en fort développement aujourd'hui. On y retrouve une forte production de bovins allaitants, de bovins viande. Il y a une production porcine. Mais ce département aussi, depuis quelques années, a su se diversifier, notamment, et tire sa force de certaines petites productions aussi complémentaires qui sont placées sous, on appelle ça des niches. Je rappelle aussi que le département de l'Aveyron est devenu depuis un ou deux ans le deux ou troisième département bio de France, avec 10% des agriculteurs qui sont à l'agriculture biologique et 12% de la sol agricole. Le troisième point, c'est le territoire, l'économie liée au territoire. La surface de ce département, c'est 520 000 hectares. C'est un des plus grands départements de France en termes de SAU. 80 000 hectares cultivés et le reste, c'est-à-dire 80% de la sol agricole, est consacré à l'herbe, à la production d'herbe, qui en fait un département au niveau économie environnementale très, très proche de la valeur la plus haute, puisque l'ensemble des agriculteurs touchent les éco-primes qui sont destinées à l'environnement dans ce département. Je rappelle que le département de l'Aveyron est au 87e rang des départements ramenés à l'hectare de l'utilisation des produits phytosanitaires au niveau ramené à l'hectare. Donc c'est un département qui utilise peu de phytosanitaires. C'est un département qui a choisi de respecter les territoires. L'Aveyron est bâti sur une mosaïque de territoires entre le nord, le sud et l'ouest Aveyron, avec des territoires complètement différents, puisque la deuxième économie du département, c'est le tourisme. Donc les agriculteurs aujourd'hui ont pris le challenge de respecter ce territoire, cette mosaïque, et de faire leur aussi l'environnement et l'accompagnement des exploitations sur ces données-là. La Chambre d'agriculture de l'Aveyron est organisée sur deux pôles. Le pôle consulaire, qui est le pôle de régalien qui demande à la Chambre d'agriculture de donner des avis sur l'urbanisme, sur un certain nombre de choses. sur l'environnement et le pôle économique. Le pôle économique se doit d'accompagner l'agriculture dans la transformation qui est aujourd'hui la sienne, c'est-à-dire avec la recherche de plus de valeur ajoutée, c'est du conseil en agriculture. Sur le budget de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, sur les 13 millions d'euros de budget, 77,5 millions viennent de la prestation de services et de l'accompagnement des exploitations agricoles, qui sont multiples. Sur la transition écologique, sur l'accompagnement technique des exploitations en bovin lait, en bovin viande, en ovin, sur le chargement, sur l'agronomie. Je rappelle qu'il y a un développement aussi de recherche. On est aujourd'hui avec le réchauffement climatique. On se doit de rechercher des nouvelles normes de production au niveau fourragère qui respectent, qu'on permet de cultiver avec le climat qui augmente et les fortes chaleurs. C'est-à-dire abandon des gramineux, par exemple, remplacement par des légumineuses qui tiennent sur avec une pluie moins importante à certaines périodes. Donc tout ça fait un certain nombre de données liées au climat qu'il nous faut accompagner pour accompagner les agriculteurs et les conseillers dans ces éléments-là.
L'Europe a connu, cet été 2022, une vague de chaleur dont le premier épisode a débuté dès la mi-juin, entraînant des températures records en France. L'Aveyron n'a pas été épargné par ce phénomène.
J'ai tendance à dire que l'agriculture de ce département a eu la triple peine. Pourquoi la triple peine ? La première peine, c'est les charges au niveau énergie qui ont augmenté comme pour tous les agriculteurs de France. La deuxième peine, c'est le coût alimentaire. On a beaucoup d'animaux dans ce département. On est un département, le premier cheptel ovin de France, par exemple. Donc il faut les nourrir et pour la nourrir, il faut des céréales. Les céréales, notamment, ont doublé, le prix des céréales a doublé à la tonne quasiment. Donc le coût alimentaire de nos animaux a doublé. Donc c'est la double peine. Et la triple peine, c'est la sécheresse qui a fortement touché ce département, très très fortement touché ce département cette année en 2022. Qui fait que l'agriculture de ce département réagira comme elle a toujours réagi, mais il faut aussi prévoir, réagira et regardera comment on peut essayer de surmonter ces éléments structurels et conjoncturels, mais elle doit aussi préparer l'avenir. Pour préparer l'avenir, je le disais à l'instant, c'est aussi avoir s'organiser avec les fortes chaleurs qu'on retrouvera de plus en plus souvent et des étés secs qu'on va trouver, le manque d'eau. Et donc la deuxième chose, c'est avoir une stratégie sur l'eau d'une manière générale dans ce département. L'eau sous toutes ses formes. Je ne vais pas rentrer l'eau potable, bien entendu, sécuriser le département en eau potable, l'eau pour l'irrigation des agriculteurs. On est dans un département de semi-montagne, donc ce n'est pas des grosses retenues, ce n'est pas de l'irrigation sur les rivières qu'on va pouvoir faire, même si nos rivières, le Lot, l'Aveyron et le Tarn, sont importantes. Vu le département qui est très accidenté, on ne pourra pas faire de l'irrigation comme on fait en plaine, mais on peut faire de l'irrigation à partir de petites retenues, de sécuriser quelqu'un qui a 50 hectares, s'il peut arroser 20 hectares de maïs ou autre, ou de luzerne, il sécurise sa production. Donc il faut repenser le développement de l'eau sous cette nature-là, et il y a une palisse qui dit que l'eau, quand elle tombe, il faut savoir la stocker. Voilà. Donc avoir une stratégie de stockage de l'eau, notamment. Donc l'eau potable, l'irrigation, l'énergie. Je rappelle que le département de l'Aveyron est le premier producteur d'énergie hydroélectrique, de l'hydroélectricité au niveau de la région Occitanie, puisqu'il produit 52% de l'hydroélectricité d'Occitanie, et c'est 10% de l'électricité au niveau national. Et je rappelle que c'est encore l'hydroélectricité qui est l'énergie la plus propre, bien au-delà de tout, y compris plus que le photovoltaïque au sol ou que l'éolien. Donc je ne comprends pas comment on n'est pas en capacité de développer cette énergie qui est au niveau de... Puisque une région comme Occitanie est placée entre deux réservoirs naturels que sont les Pyrénées et le Massif central. Donc je souhaiterais qu'on ait une stratégie globale sur le développement de l'énergie à partir de l'hydroélectricité et des rivières qui sont. Ensuite, préserver le milieu environnemental, bien entendu, les cours d'eau le plus possible. C'est aussi une stratégie de stocker d'eau en amont. avoir une stratégie aussi de d'étayage et de tourisme, puisque nos lacs, notamment par nous, accueillent des touristes l'été. Donc tout ça est une vision globale, et avec le conseil départemental, Adour-Garonne et l'État, la Chambre d'agriculture, nous allons organiser fin octobre les assises de l'eau qui permettront d'avoir une vision globale, une stratégie à moyen terme sur ce dossier.
Depuis la pandémie du Covid-19, on parle d'une exode urbaine, c'est-à-dire du départ de nombreux citadins vers les campagnes. Un phénomène également constaté par Jacques Molière, président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron.
Je l'ai constaté dans le département, je l'ai constaté aussi surtout au niveau de ma commune, de ma communauté des communes, puisque toutes les maisons ont été prises d'assaut cet été et qui étaient à la vente ont été prises d'assaut. C'est bien de revoir des gens qui s'intéressent au rural, parce qu'on a eu une stratégie dans ce pays qui n'était pas la bonne, qui a entassé 80% des gens sur 20% du territoire. Ça a une fin en soi, puisque avec la crise de la société qu'on connaît aujourd'hui, qui est en retour vers le rural, c'est très bien, à condition qu'on l'organise et qu'on l'organise de façon cohérente. Je rappelle que dans un département comme l'Aveyron, le premier challenge de la profession agricole dans les 10 prochaines années, c'est le renouvellement des générations. Donc les fils ou filles d'agriculteurs ne suffiront pas à reprendre en main les exploitations agricoles. Il faudra aller chercher des bras et des cerveaux pour faire fonctionner, si on veut garder le potentiel économique qu'on a aujourd'hui dans ce département. Et donc il faudra être en capacité d'accueillir des gens venus d'ailleurs, d'autres professions, etc. etc. Donc je pense qu'on est sur cette stratégie-là, et que les jeunes agriculteurs aujourd'hui doivent avoir la notion de reprendre la terre. Il faudra trouver des solutions des exploitations agricoles, de financement, parce que les coûts de financement sont de plus en plus importants. Le capital d'exploitation, le capital foncier est très important. Il faut se mettre en recherche de trouver des solutions pour accompagner ces jeunes qui pourront reprendre des exploitations et faire vivre des départements, la ruralité dans les départements comme les nôtres.
Nous en savons désormais plus sur le monde agricole aveyronnais grâce à la vision globale que peut avoir la Chambre d'agriculture. Nous décidons ensuite de donner la parole aux premiers concernés, les agricultrices et les agriculteurs. Pour cette première escale dans une exploitation agricole, direction le petit village de Saint-Jean-d'Alcasse, au pied du Causse du Larzac et à 10 minutes des célèbres caves de Roquefort. La ferme d'Alcasse, spécialisée dans l'élevage de brebis, est tenue par Alexandre et Émilie Vialette.
Alors je me présente, je m'appelle Émilie Vialette. Je suis associée avec mon mari Alexandre dans une ferme où on produit du lait de brebis, on transforme en yaourt et bientôt on va faire du fromage. Et mon parcours, pour faire succinct, moi j'ai fait un master en économie internationale, j'ai commencé à préparer une thèse en économie internationale. Je suis pas allée au bout de la thèse, mais bon voilà, c'est pas grave. Et du coup j'ai bifurqué, j'ai été enseignante en lycée agricole pendant 3 ans. Et suite à ça, j'ai arrêté, j'ai eu mon premier enfant, et puis il y a eu un petit temps de latence, et quelques années après, je me suis installée sur le GAEC. Alors la ferme dans laquelle je travaille, c'est une ferme familiale. Il y a eu 11 générations de paysans avant, donc c'est mon mari qui a repris au décès de son papa. C'était une ferme très classique du bassin de Roquefort en Auvin-Lay. Voilà, il y avait 300 brebis, une traite de janvier à septembre qui livrait pour faire du Roquefort. Et en quelques années, on a complètement modifié le système puisqu'on est passé en transformation, en yaourt. On est passé en traite à l'année et puis là bientôt on va faire du fromage. Donc voilà, c'est une ferme qui a beaucoup bougé en quelques années.
Comme beaucoup d'exploitations agricoles, la ferme d'Alcasse a développé d'autres activités pour diversifier ses ressources, mais aussi pour faire découvrir aux curieux un univers qui leur est souvent inconnu.
Alors on a des activités annexes, on a commencé par mettre une roulotte pour faire de l'hébergement à la ferme, ça a démarré en 2015, on l'a fait pour des raisons d'envie de partager, de rencontrer du monde, parce que quand on est sur une ferme on part pas trop en vacances, donc c'était plutôt l'idée que les gens viennent nous voir, donc on a commencé par ça, en même temps on a fait des visites de ferme, puis le temps a passé, on a un petit peu, on va dire, mieux organisé les visites dans le sens où maintenant on est ouvert tous les soirs de l'année, en traite ouverte. Avec un accès libre et gratuit, on a aménagé du coup la salle de traite et l'espace pour que les gens puissent naviguer. Et là, donc, on va faire une fromagerie et attenant à cette fromagerie, on va faire un grand espace d'accueil. Donc on va avoir une très grande salle qu'on mettra à disposition pour tout ce qui est du séminaire d'entreprise, de la location de salle. Et à terme, je pense que nous-mêmes, on fera des formations sur notre domaine. Et j'aimerais que des gens puissent venir faire de la formation ici dans des thèmes qui nous plaisent. Donc on a vraiment étoffé l'offre de services à côté de la production. Cette volonté d'amener du service et de faire venir les gens, c'est en effet pour leur témoigner de nos pratiques, de ce qu'on fait, leur permettre de se rendre compte, être inspirant aussi pour eux, parce qu'on l'a vu là, avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, donc c'est un moyen de leur faire toucher du doigt ça. Et puis je ne vais pas vous cacher aussi qu'aujourd'hui produire à manger c'est quand même de plus en plus difficile, particulièrement dans l'élevage. Donc moi je crois que l'agriculture de demain, elle est associée à du service, donc clairement c'est un moyen d'amener aussi de la valeur ajoutée extérieure sur la ferme en fait.
Agriculture biologique, Déméter, biodynamie, on entend souvent ces termes sans savoir exactement ce qu'ils signifient. Émilie Vialette nous a éclairé sur ces différentes méthodes de production et labels.
Alors l'agriculture biologique, ça je pense que c'est assez clair pour tout le monde, absence d'engrais chimiques, absence de pesticides, bien-être animal, etc. Donc avec un contrôle par le cahier des charges et le label bio. La biodynamie, puisque le label Déméter, ça, c'est le label de la biodynamie, c'est une approche encore plus stricte, ou à la fois plus stricte et plus... Ouais, c'est différent. En gros, c'est produire avec une conscience qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans la production, tels que les rythmes lunaires. Donc on va vraiment faire attention au jour, au rythme de la lune. Après, il y a des choses très techniques en termes des jours fruits, des jours feuilles. Voilà, il y a tout un calendrier lunaire dont on va tenir compte dans nos pratiques. Après, il y a des choses très concrètes qu'on doit faire, c'est-à-dire passer des préparations sur le sol, de la bouse de corne, de la silice. Donc ça, c'est très technique. Après, nous, sur les animaux, on n'a pas le droit de leur couper les queues, ce qui se fait dans d'autres élevages. Et après, on a une contrainte au niveau de l'autonomie alimentaire sur la ferme, puisqu'on doit produire 80% de l'alimentation. Donc en fait, ça, c'est vraiment une agriculture qui ne peut pas être autrement que liée au sol. On ne peut plus faire de hors-sol. J'ai envie de dire que c'est une agriculture très traditionnelle, comme on faisait avant, c'est-à-dire de la polyculture, polyélevage, avec un ancrage sur la ferme dans laquelle on est.
Mélomane dans l'âme, les brebis de la ferme d'Alcas ont même droit à une playlist musicale personnalisée.
Bah, y a plusieurs raisons en fait, de mettre de la musique dans la bergerie. Très pragmatiquement, ça permet aux brebis d'être habituées à avoir un fond sonore. Donc quand on rentre, et vous l'avez pu le voir, quand on est arrivé dans la bergerie, elles ne sont pas parties en courant. Et puis après, voilà, c'est aussi une manière de mettre des bonnes ondes.
On le sait, changer nos méthodes de consommation est une priorité pour soutenir nos agriculteurs.
Bah, je pense que déjà... faire le plus possible attention à ce qu'on achète, où on l'achète. Clairement, privilégier un achat en direct pour l'agriculteur, c'est de la marge en plus. Donc évidemment, tout ce qui est les circuits courts et acheter auprès des producteurs, en fait, ça c'est le premier levier, parce que c'est ce qui fait que nous, on peut vraiment gagner notre vie, en fait. Outre la canicule, je pense que le plus gros enjeu qui va se passer pour l'agriculture, c'est la transmission des fermes. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'éleveurs de brebis qui font du lait en particulier. Là, ils ont les volumes de lait qui baissent, le nombre de points de livraison qui baisse. Et autant avant, il y avait un regroupement en fait, des structures qui grossissaient, mais là, il y a même clairement moins de structures. Donc c'est trouver des repreneurs, redynamiser le métier, parce qu'en fait, le risque, c'est qu'à terme, je vous parle pas demain, hein, mais il n'y en ait plus. Donc comment faire en sorte d'attirer encore des jeunes et une fois qu'ils sont attirés, d'arriver aussi à travailler ensemble. Parce que moi, pour le coup, je suis ce qu'on appelle une hors-cadre. Moi, je ne viens pas de cette ferme, j'ai été rajoutée. Et quand bien même c'est mon mari, c'est mon conjoint et je l'aime, etc. Trouver sa place sur une ferme familiale, ce n'est pas simple. Donc nous, on avait encore ce lien de cœur, mais quand on vient de l'extérieur, c'est tout un enjeu aussi. Alors moi j'avais envie de rajouter que moi je viens d'une famille qui a vécu à la ville. J'étais habituée à voir un cinéma à un quart d'heure de chez moi. Donc j'ai vraiment découvert ce que c'était que la ruralité, c'est-à-dire vraiment être un peu voilà, loin des toutes premières nécessités. Et j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup une image un peu idyllique autour de la ruralité, avec tout ce retour là, après le confinement, de retour à la terre, retour à la campagne, etc. Que la ruralité, c'est à la fois c'est fantastique, en même temps, c'est pas toujours facile au quotidien. Voilà, d'avoir cette conscience qu'on est sur un territoire magnifique, que la ruralité et que ce contact à la nature, aux animaux, etc., ça apporte énormément. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à vivre au quotidien. Mais ceci dit, à titre personnel, je ne reviendrai pas en arrière.
Pour continuer notre périple et aller à la rencontre d'agriculteurs aveyronnais, nous avons décidé de prendre contact avec Jeunes Agriculteurs Aveyron, un syndicat professionnel agricole qui a la spécificité de fédérer des adhérents âgés de moins de 38 ans. Chefs d'exploitation, salariés agricoles et même étudiants, ils sont nombreux à se faire aider et conseiller par cette structure. Clément Lacombe, agriculteur en Gaec, nous a accueillis dans son exploitation à Pourqueyras, sur les hauteurs de Millau, la sous-préfecture de l'Aveyron.
Donc bonjour, moi c'est Clément Lacombe, je suis agriculteur donc sur Millau. J'ai 36 ans, j'ai une compagne et un petit garçon. Donc sur Millau, je travaille avec mes parents et mon oncle, et puis on est un salarié, on est 5 sur la ferme. Et on a des brebis laitières, on produit du lait pour le Roquefort. Donc c'est la ferme familiale, je crois qu'on est là, je crois que je suis la 5e génération. Et donc j'ai pris la suite, je travaille avec mes parents qui vont prendre la retraite l'année prochaine, et mon oncle. Donc je vous disais, on a des brebis laitières, c'est la production principale. Ici on est sur les Causses, la région des Grands Causses. C'est vraiment la production typique, les brebis, elles sont adaptées parce que c'est des sols assez peu profonds, calcaires, c'est très séchant l'été. Donc on est habitué aux périodes de sécheresse. Et donc on cultive après à peu près 220 hectares qui normalement, une année normale, suffisent à nourrir le troupeau. Il suffit d'acheter un petit peu d'aliments pour équilibrer la ration, mais on fait nos céréales, de l'orge et du blé qu'on donne aux brebis, et l'excédent est vendu. Et après on cultive surtout des luzernes qui sont bien adaptées aux causses, et un peu d'herbe pour faire pâturer. On a toujours donc travaillé en famille. Donc c'est mon grand-père qui avait développé l'exploitation à partir des années 60, quand lui est revenu sur la ferme. Il s'était déjà à l'époque associé avec trois voisins pour faire un GAEC, la forme sociétaire qu'on a actuellement. Parce que à cette époque-là, il avait envie de se développer et de pouvoir travailler, avoir un peu de temps de libre. Et avec trois voisins qui étaient le même cas que lui, ils avaient construit la bergerie là, qui est à côté de vous. Là. Et du coup, après, quand mon père est revenu sur la ferme, c'est là que c'est revenu carrément en famille. Mon père et mon oncle ne sont pas partis chacun de leur côté, ils sont restés sur la ferme familiale. Et moi, quand je suis arrivé, j'avais travaillé un peu à l'extérieur pour voir autre chose. Et puis je suis revenu assez naturellement. Et après, c'est quelque chose qui va évoluer incessamment sous peu, puisque je vous disais, mes parents prennent la retraite fin 2023. Et notre salarié donc, est intéressé pour s'associer avec nous, devenir associé. Et puis on a aussi un jeune qu'on connaît qui va venir travailler avec nous l'année prochaine, et si tout va bien, le remplacer. Donc le côté exclusivement familial va s'élargir, puisqu'on a intégré donc, des hors-cadres familiaux, comme on dit. Mais bon, c'est pour le bien de la structure qu'on puisse continuer à travailler comme on est actuellement. Moi, j'ai envie de dire qu'on défend, surtout dans l'Aveyron, une agriculture mais de type familial. Ça ne veut pas dire travailler qu'en famille. Ça veut dire à échelle humaine, c'est-à-dire garder des exploitations. Il faut que ce soit, la priorité, il faut que ce soit vivable, qu'il soit viable, pardon, c'est-à-dire qu'on puisse gagner notre vie. Il faut que ce soit vivable, ça c'est l'aspect social, c'est très important. C'est-à-dire qu'on puisse arriver à se dégager un petit peu de temps de libre, prendre un week-end sur deux, quelques vacances, ça c'est très important. Et puis après, la taille humaine, c'est important pour la succession chaque fois. Si c'est trop important, c'est difficile à transmettre, et du coup ça peut empêcher les exploitations de perdurer. S'il y a trop de foncier à reprendre, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Après, ici, l'Aveyron, c'est un département d'élevage par excellence. On est le premier département moutonnier de France. Ici, c'est le pays de Roquefort. Le Roquefort, c'est une AOC. Qu'on est attaché quand même à une production de qualité. On fait du mieux qu'on peut, mais c'est des choses qui nous sont chères.
L'exploitation de Clément Lacombe a aussi subi les effets de la canicule de cet été 2022.
Ben oui, les vagues de chaleur et de canicule se sont succédées. Alors nous, on est quand même habitués sur le Causse aux périodes de sécheresse et au manque d'eau. On a eu quand même une chance parce qu'on a eu un gros orage fin juin qui nous a à peu près sauvés. Mais c'est vrai que, en fait, les successions de périodes chaudes, enfin, on fait que ça affecte les brebis. On peut les sortir vraiment que de bonne heure le matin. Après, dehors, elles ne peuvent pas rester au pâturage, il fait trop chaud. Donc, ça a un peu moins de production. Et puis, c'est sûr que sur l'état des stocks, ça va s'y connaître. Alors ici, on travaille beaucoup avec du report de stock. L'année dernière avait été très bonne. Donc, avec l'équilibre cette année qui avait moins de stock, ça devrait le faire. Il faudra acheter. Mais c'est pas catastrophique. D'autres régions du département sont vraiment en souffrance. Je pense vraiment au sud d'Aveyron, à l'extrême sud. Et voilà, ce qui nous inquiète, c'est la succession, quoi. On vient de passer une dizaine d'années, les années 2010, qui étaient assez favorables. Mais les années 2000 avaient été très, très sèches. Et là, enfin, voilà, c'est ce qui est très dangereux pour nous, quoi. La succession d'années sèches. Et ça, après, c'est amené peut-être à arriver, quoi.
Mais la météo n'est pas la seule difficulté que rencontrent les agriculteurs aveyronnais. Dans certains secteurs, c'est même la faune elle-même qui peut créer des problèmes aux solutions pas toujours évidentes.
Nous, enfin, bon, par ici, c'est le risque majeur, on va dire. Il y a des zones du Cos assez extensives où il y a de l'élevage ovin viande qui fait face pas mal à la prédation, enfin, notamment avec le loup. Et parfois les vautours qui viennent perturber les troupeaux, on va dire. Ça, c'est un peu dommage parce qu'en fait, c'est bien parce qu'on réintroduit des animaux sauvages. Mais parfois, je ne sais pas si c'est qu'on ne s'en occupe pas assez ou quoi, s'ils viennent perturber et embêter nos animaux qu'on essaye d'élever le mieux possible. Je pense à des élevages sur le Larzac, par exemple, qui sont totalement en plein air. Vraiment, c'est vraiment de l'agriculture. Enfin, on ne peut pas faire plus naturel. Mais si on est obligé de rentrer les troupeaux parce que voilà, s'il y a le loup qui guette ou après les vautours des fois qui viennent perturber l'abreuvement des bêtes, il faudrait qu'on arrive en bonne intelligence. Je pense qu'il peut y avoir une cohabitation, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de l'élevage, parce que bon, les éleveurs sont là aussi pour gagner leur vie et nourrir les gens quand même. Donc c'est un peu des difficultés qu'il y a dans le secteur, sur le département que je vois, moi, quoi. Enfin, le loup, nous, on n'est pas affecté ici parce qu'on est trop proche de Millau où il y a l'autoroute qui est à côté. Mais sur l'Écosse, ouais, quand même, ça se développe, quoi. Et les vautours, oui, les vautours. Et on a l'impression que, quand on les voit, nous, ça peut... Enfin, c'est eux arrivés qui viennent attaquer une bête morte, qui est, par exemple, une bête qui aura mangé trop de luzerne, qui peut... On dit qu'elle gonfle, c'est-à-dire elle va manger, et s'empoisonner, en fait, s'intoxiquer, s'étouffer. Et cette bête-là, si on n'est pas vigilant, si les vautours sont dans le coin, ils la sentent, ils peuvent venir la manger. Bon, elle est morte, c'est pas grave. Mais quand on voit le nombre qui viennent, on se dit, mais ils sont affamés, c'est pas possible, quoi. Donc, là, je pense qu'il y a à faire, quoi. Soit il faut réguler la population pour qu'ils aient quand même assez à manger, ou leur donner à manger, je sais pas, mais... Et c'est notamment pareil, un voisin sur Saint-Georges-de-Luzançon, la commune voisine, qui a été embêtée, ses vaches, en fait, avaient peur d'aller, elles sont en extérieur tout le temps, elles pouvaient pas aller à l'abreuvoir, boire à l'eau, parce que les vautours venaient, en fait, avaient pris l'habitude de venir, et s'y baigner, et boire. Et après, là, l'eau, elle est souillée, parce que bon, les vautours, ça mange quand même que la charogne, donc c'est pas très propre.
Le problème du renouvellement et de la transmission de ces métiers agricoles est récurrent, et Clément Lacombe nous a donné son point de vue sur ce sujet.
La difficulté, qu'il y a dans le métier, c'est la transmission des exploitations, et c'est là qu'il faut qu'on progresse, puisque... Mais avant, il y a 50 ans, et bien, voilà, t'étais un garçon et l'aîné de la famille, et bien, tu reprenais la ferme, c'était comme ça. Là, maintenant, heureusement que c'est plus comme ça, parce que c'est un métier quand même qu'il faut faire par passion, sinon tu le fais pas. Et il faut le faire par conviction. Donc, dans une famille, eh bien, il y a un garçon ou une fille, parce qu'heureusement qu'il y a des agricultrices aussi, eh bien, qui ne veut pas reprendre, eh bien, voilà, il faut se tourner vers l'extérieur. Alors, je disais le terme hors cadre familial, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas issu, qui n'a pas des parents spécialement agriculteurs, mais qui est intéressé par le métier. Mais c'est vers ces gens-là qu'il faut qu'on se tourne et leur montrer que voilà, il y a de quoi faire, il y a des structures qui tournent bien, il y a la possibilité de travailler en association, comme la forme qu'on travaille nous en GAEC. Mais ça permet de partager les décisions, de partager le travail, les investissements et donc les risques, et de pouvoir se remplacer, quoi. Nous, on arrive à s'organiser, d'avoir un week-end sur deux, partir 15 jours l'été en vacances, l'hiver aussi, un peu. Donc voilà, il faut qu'on évolue et qu'on montre l'image positive du métier qui est... Il y a des aléas climatiques, on travaille avec du vivant, mais il y a quand même, pour moi, de quoi encore bien travailler en agriculture.
Le GAEC, Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, est une société civile agricole de personnes permettant à des agriculteurs associés la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. C'est un fonctionnement qui revient régulièrement de nos jours dans les exploitations agricoles.
En fait, ouais, donc c'est comme une entreprise où on est associé, à part égale ou pas. On choisit, voilà, chacun a une part de capital, ça peut être équilibré ou pas. Et après, on se partage le résultat, équilibré ou pas. C'est pareil, il y a une clé de répartition. Et à l'intérieur, voilà, on essaye de partager les décisions et le travail. Et c'est une forme qui s'est énormément développée dans la production au Vélé. Et sur le département, elle est quand même majoritaire. Hein, on installe 140 jeunes à peu près chaque année. Il y en a entre deux tiers et trois quarts qui s'installent sous forme de GAEC, quoi. Et en élevage, c'est un atout parce que l'élevage, bon, nous on est en brebis laitière, on ne traite pas toute l'année, on traite 7 mois de l'année les brebis, après elles sont à riz, donc il y a moins de travail. Mais l'élevage, par exemple, bovin lait, c'est tous les jours de l'année, la machine à traire, elle démarre, quoi. Donc quand tu es tout seul ou quand tu es en couple, voilà, il faut qu'il y en ait un qui aille tous les matins à traire. Donc il y a des possibilités de se faire remplacer. Mais bon, c'est vrai, quand on est à plusieurs, on peut, en s'organisant, essayer que le week-end, quand il y a l'astreinte, le boulot minimal à faire, y être la moitié, quoi, ça suffit, quoi.
Qu'est-ce que Jeunes Agriculteurs Aveyron ? Comment ce syndicat tourné vers la jeunesse fonctionne-t-il ? Clément Lacombe est bien placé pour nous expliquer son fonctionnement.
J'en ai été responsable pendant quelques années, maintenant je suis simple adhérent. C'est le syndicat des jeunes, je crois qu'on peut y adhérer jusqu'à 37 ou 38 ans, je ne sais plus, ça a changé il y a peu. Et la préoccupation principale justement des agriculteurs, le sujet majeur des jeunes agriculteurs, c'est le renouvellement des générations, l'installation et la transmission des exploitations, l'installation des jeunes. Et voilà, donc ils essayent de travailler à comment mettre en relation des jeunes qui auraient des projets, qui n'ont pas spécialement de structure, avec des gens qui sont en voie de cessation d'activité, essayer de voir s'ils peuvent pas s'entendre entre eux. La promotion du métier, qui est de leur sujet phare. Et puis après, tout ce qui est fait une défense, voilà, quand on s'installe, on est formé pour le métier, soit par son parcours scolaire, soit par des formations qui sont proposées. Et ça permet d'avoir une petite, ça s'appelle une dotation aux jeunes agriculteurs, une petite aide de départ pour l'installation. Et ça, c'est quelque chose qui a été créé il y a une cinquantaine d'années. Et voilà, JIA en est le défenseur et essaye de le faire perdurer parce que c'est important. Tous les métiers ne le font pas. Et même si ce n'est pas très significatif par rapport à une carrière, c'est pas rien, quoi. Et on défend ces installations-là, quoi, et ces aides-là, quoi. Et après, d'autres sujets que... Voilà, après, les sujets syndicaux pour défendre aussi les agriculteurs. On travaille aussi avec nos aînés en bonne intelligence. Et on arrive à s'allier pour certains sujets, quoi.
Avec la crise de l'inflation, le pouvoir d'achat est le premier sujet de préoccupation des Français en 2022. 54% des sondés se disent soucieux à ce sujet, toutes catégories sociales confondues. Une difficulté pour l'agriculture et les circuits courts concurrencés par la grande distribution et des produits plus accessibles financièrement.
Le roquefort, c'est un produit de qualité, donc comme tous les produits de qualité, et je pense aussi aux produits en agriculture biologique par exemple, le pouvoir d'achat des gens, il n'est pas extensible. Mais il faut quand même que nos produits soient payés à leur juste valeur. Nous, nos charges augmentent et donc les prix sont amenés à augmenter. Enfin, nous, on espère que notre prix de lait va augmenter. Mais il faut arriver à trouver un juste milieu parce que c'est sûr, c'est un frein pour le fait qu'un produit cher, mais il est peut-être moins acheté. Après, je pense que les gens aussi doivent avoir un raisonnement d'arriver à acheter peut-être plus raisonné, moins en quantité, mais peut-être se faire plus plaisir avec du produit local ou sous label. Peut-être à manger moins souvent, mais quand même privilégier la qualité. Après, C'est quand même un emblème, et même s'il s'en vend un peu moins, heureusement qu'on ne fait pas que ce fromage-là. Il y a d'autres fromages, fromages pour salade qui marchent énormément, des fromages à pâte molle aussi. Heureusement qu'il y a ces produits. C'est pas des produits bas de gamme, hein, parce que c'est quand même du lait. Enfin, le lait, c'est le même lait. Hein, on a tous le même cahier des charges. Et même si notre lait il fait pas du Roquefort, il a les mêmes normes. C'est du lait cru au départ. Enfin, qui au départ peut être du lait cru et peut être transformé en Roquefort. Ça peut devenir un problème, mais bon, il y a d'autres transformations qui peuvent nous permettre aussi d'avancer et gagner quand même notre vie.
Toujours conseillé par jeunes agriculteurs Aveyron, nous nous sommes rendus au GAEC d'Opiac, à Camarès, dans le sud Aveyron, pour terminer notre radio trip. Surnommé le Far West Aveyronnais, on y trouve les Rougiers de Camarès, paysage à la terre rougeâtre. Le GAEC d'Opiac se trouve dans les hauteurs, au pied des éoliennes. Nous y avons rencontré Nicolas Fangeau, gérant de l'exploitation, aux côtés de son cousin.
Donc bonjour, je m'appelle Nicolas Fangeau, donc je suis agriculteur dans le sud d'Aveyron, dans le secteur de Camarès, en vache laitière. Donc c'est une exploitation, nous sommes deux associés et un salarié à travailler sur l'exploitation. En vache laitière Primo Holstein, c'est la race. Nous faisons du lait en conventionnel que nous vendons à la laiterie Sodial. C'est la coopérative nationale. Donc cette ferme se situe à 800 mètres d'altitude. Donc dans la fin des monts de la Cône, le début de la montagne noire, si vous voulez. Donc on est au-dessus du Rougier de Camarès. Donc c'est une exploitation où mon arrière-grand-père l'avait acquise dans les années 1918. Et donc mon grand-père a pris la suite, ainsi que mon père, mon oncle. Donc voilà, ça reste plus ou moins familial. Et donc, je me suis installé en 2015 avec mon cousin qui s'est installé 2 ans plus tard, ainsi qu'un troisième associé qui est parti pour des raisons familiales. Et donc, nous avons commencé notre parcours d'installation à trois, donc trois jeunes agriculteurs, quoi. Alors, on voit de plus en plus des situations hors cadre. Donc, étant président du syndicat jeune agriculteur dans le sud d'Aveyron, dans le canton du sud d'Aveyron, président du canton. On pousse, on tend à favoriser les installations de jeunes agriculteurs hors cadre, voilà, parce que c'est pas évident de se lancer dans l'agriculture quand on ne connaît pas le milieu. Et c'est vrai qu'on a davantage d'installations dans le cadre familial, parce que c'est un travail particulier où quand on est né dedans, on y est plus facilement voué à faire cette profession. C'est tout simplement ça. Déjà, on a une manifestation dans le sud d'Aveyron, c'est une manifestation agricole, donc ça s'appelle la foire de printemps à Sainte-Afrique, où là déjà on se met un peu en avant, les jeunes agriculteurs, en faisant un week-end festif autour de l'agriculture avec des tracteurs en exposition, ainsi qu'une buvette, des stands autour de l'agriculture, et un repas. Et donc ça nous met un peu en avant par rapport aux jeunes qui voudraient rentrer dans le syndicat, et donc créer un tissu vraiment autour de professionnels. Et donc nous, après, on peut les aider au niveau, une fois qu'ils sont adhérents, on peut leur faire découvrir l'organisation en les invitant à des réunions, par exemple, pour leur montrer comment ça fonctionne. Et s'ils veulent adhérer, après, on les couvre juridiquement, on les aide sur le parcours d'installation, et ainsi qu'au niveau foncier, parce qu'on a plusieurs responsables fonciers qui sont en lien avec la SAFER, et qui permettent de trouver des terres où les jeunes pourraient préempter, qui seraient prioritaires sur des terres agricoles. Donc ça, c'est des moyens de levier pour aider les jeunes.
Le GAEC d'Opiac a également été impacté par l'été caniculaire de 2022 et surtout par l'important manque de pluie.
Alors ça a touché toute la France, hein, plus ou moins grave, quoi, au niveau de la sécheresse. Nous, c'est vrai qu'ici, on a pris, depuis le mois de mai, on a pris 80 mm, donc c'est très peu. Et on en a souffert, on a dû acheter de l'alimentation pour les vaches laitières. car on n'aura pas fait les stocks habituels pour nourrir le troupeau, quoi. Donc il va falloir orienter le nombre d'animaux sur l'année aussi pour éviter de trop consommer. Et on a dû acheter à peu près 17 000 euros d'alimentation pour nous cette année, alors que d'habitude on n'en achète pas. Donc voilà, c'est un ordre de prix qui correspond à l'exploitation, donc ça dépend des exploitations. Mais c'est réel, voilà, c'est une réelle inquiétude pour cette année-là, ouais. En espérant qu'il n'y en ait pas une après celle-là. On sait que le climat change, et même si c'est à une échelle peut-être de plusieurs générations, il y a quand même des changements par rapport déjà à mes grands-parents ou à mon père. Donc sur la gestion de l'eau ainsi que le choix culturel qu'on peut faire pour nourrir les animaux, quoi. Quelle implantation de végétaux nous allons mettre sur nos champs qui peuvent correspondre aux besoins d'eau qu'elles peuvent avoir, et les animaux, ce qu'elles peuvent aussi consommer. Donc oui, tout ça, ça en fait partie. Et si vraiment, au futur, dans le futur, est-ce que la production laitière dans le sud Aveyron sera toujours bien judicieuse, c'est pas dit.
Le manque de main-d'œuvre, le changement climatique, pour Nicolas Fangeau, ce sont des problématiques auxquelles ils doivent déjà faire face.
Alors dans l'Aveyron, c'est vrai que j'ai du mal à m'exprimer pour le département, parce qu'il est très grand, très varié au niveau de son territoire. Sur le canton où je suis, c'est quand même très rural. Et donc, on peut avoir des problèmes, oui, de main-d'œuvre. Donc, trouver des salariés agricoles sur le secteur, c'est compliqué. J'en ai même, fait l'expérience, puisque j'ai cherché un salarié agricole quand mon associé est parti. Donc, ça peut être une problématique. Après, la problématique, ça va être, c'est vrai, climatique, parce que ça reste, dans le sud Aveyron, on est quand même un endroit plutôt sec. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vaches, de brebis laitières. C'est un secteur brebis laitières, parce qu'il y a Roquefort, bien sûr, mais c'est aussi un animal qui est quand même mieux approprié au territoire.
Une autre inquiétude des potentiels futurs agriculteurs est de manquer de temps libre. Pour contrer cela, Nicolas Fangeau nous a expliqué le fonctionnement et fait la démonstration d'un incroyable robot de traite.
L'objectif d'être à plusieurs sur l'exploitation, c'est de nous dégager du temps libre. Et donc, on a automatisé l'exploitation de plusieurs manières, dont surtout la partie traite, qui est robotisée. Donc, c'est deux robots de traite, les lits. Et donc, ça permet de nous dégager du temps, d'être plus technique sur notre production. Et donc moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé avoir une vie professionnelle bien remplie, mais une vie privée aussi. Et donc je suis impliqué dans le comité des fêtes du village, je suis impliqué dans le sport, dans les associations sportives autour de moi, je fais de la musique aussi. Donc c'est vrai que c'est important pour moi et pour mon associé aussi. Donc voilà, nous sommes à côté des deux robots de traite qu'on a sur exploitation. Nous, ça nous a permis d'organiser notre travail différemment. Et on a gagné bien sûr un confort de vie parce que la strength a été diminuée. Moi qui m'occupe principalement du troupeau, je passe quand même la plupart de mon temps sur le troupeau, mais en ayant une organisation différente, plus souple et en confort de travail vraiment amélioré, quoi. Et donc je suis aussi plus technique parce que j'ai beaucoup d'informations qui me sont remontées grâce à l'ordinateur. Et j'arrive à être plus pointu et individualiser vraiment mes animaux pour envoyer le meilleur des performances possibles, quoi. Au niveau du lait, nous on se situe à peu près à 11 000 litres par vache et par an, quand la moyenne française est à elle à 7 500 litres de lait par vache et par an. Donc on a des bons résultats sur l'exploitation. Et qui sont en partie dues depuis à la mise en place du robot. Voilà, donc pour le fonctionnement, ces animaux passent quand ils veulent dans la journée, et ils sont acceptés ou pas par le robot qui va ensuite les traire, donc les nettoyer, les traire et les désinfecter comme en salle de traite, mais automatiquement par une machine. Et donc tout est informatisé, il connaît l'animal, il sait sa production, et en fonction de sa production, il va pouvoir y donner l'alimentation concentrée, quoi, nécessaire à sa production, mais individualisée. On peut individualiser les animaux en vache, c'est vrai que c'est l'avantage qu'en brebis. D'ailleurs, sur l'organisation de l'exploitation et un peu mon parcours depuis mon installation, même de vie, j'en parle dans un podcast qu'a réalisé les jeunes agriculteurs. Donc, c'est notre bureau qui a organisé ça, donc dans l'Aveyron des jeunes agriculteurs. Donc, c'est un podcast qui s'appelle Dans leurs bottes, qui va voir les agriculteurs un peu dans leur intimité et qui les interroge donc sur leur parcours, sur leur motivation. Et donc, c'est intéressant. Ils sont venus me questionner. C'était au mois de juillet. Et donc voilà, donc si vous voulez réécouter ce podcast, ça s'appelle Dans leurs bottes et c'est Nicolas Fangeau, je sais plus l'intitulé, mais vous pouvez le retrouver comme ça avec mon nom de famille. Mais sur l'exploitation, on travaille la génétique depuis longtemps et c'est ce qui permet aussi d'avoir des résultats, des bons résultats donc techniques sur l'exploitation et donc des animaux qui vieillissent. Et c'est ce côté génétique là, moi je suis un peu passionné par ça et donc je fais des concours de génétique donc qu'on peut retrouver au salon de l'agriculture à Paris par exemple, donc pour le plus gros il y en a un à Cournon et après il y en a dans les départements ou régionales. Et donc quand je peux, je me rends à ces concours, mais je suis au bureau de l'association Primostein de l'Aveyron qui donc organise le concours de l'Aveyron. Donc à Barraqueville, donc le 1er mai. Et donc c'est vraiment un point qui me plaît aussi sur l'exploitation, c'est de travailler la génétique sur le troupeau. Alors pareil, j'en parle dans le podcast que je vous ai parlé tout à l'heure, pour arriver un peu plus en détail, parce que c'est quand même assez technique.
C'est ainsi que s'achève notre radio trip en Aveyron pour découvrir le monde agricole, ses craintes, ses forces et sa manière de travailler en 2022. Il est difficile de faire des généralités sur toutes ces facettes que nous avons découvertes, mais s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir de ces rencontres, c'est un amour de la terre à toute épreuve. Même si les difficultés sont bien présentes, notamment dues au climat et au renouvellement de ces corps de métier, nous retiendrons surtout l'accueil chaleureux et l'envie de transmettre un savoir bien souvent ancestral. Un grand merci à nos intervenants Jacques Molière, Émilie Vialette, Clément Lacombe, Nicolas Fangeau et Charlotte Éléonore Jansnel de Jeunes Agriculteurs Aveyron.
C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr.